Bonjour, bienvenue à Refaire le Monde en 20 minutes, je m'appelle Niki. Je vous présente aujourd'hui la première partie d'une conversation avec Nathan Lambert sur comment réussir pour effectuer une transition de leadership. Nous parlons de politique, d'église et de business et j'espère que cette conversation sera intéressante pour vous. La deuxième partie sera disponible dès la semaine prochaine, donc si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour être notifié chaque fois que nous publions un nouvel épisode. Et maintenant, place à la conversation.
Juste un petit truc, est-ce que
ouais,
tu
vas-y.
crois que si j'essayais de faire une sorte de beatbox,
Ouais.
Que tu arriverais à le caler sur la musique du générique?
Absolument pas, non.
Non?
Non.
On peut essayer?
Sauf si tu... Comme tu veux, vas-y. Mais ça... Tu te rappelles du...
Je crois.
Okay.
On peut essayer de les mettre ensemble. Vas-y, vas-y, fais un beat toi aussi.
D'accord, vas-y, commence.
Ça donne.
Ouais, ça peut être une nouvelle intro au final. Hein.
Ben ouais.
Cette semaine, Nathan, on est dans un moment intéressant de la vie politique, surtout anglaise. On est tous les deux anglais.
Ouais.
Et nous sommes actuellement.
Même si je refuse cette identité.
on est tous les franco-britanniques, avec une culture anglaise quand même. Et en ce moment, je ne sais pas quand cet épisode va sortir, mais il y a une transition de pouvoir qui va être faite. Bah, pas une transition de pouvoir, mais une transition de leadership au sein d'un parti politique anglais, entre Theresa May et Boris Johnson.
Oh non.
Désolé, attends. Entre Theresa May et celui qui va être élu, le nouveau Premier ministre anglais.
Boris Johnson.
Voilà, il y a encore deux candidats, mais bon, ça va être Boris Johnson, on va pas se voiler la face.
N'empêche,
ouais.
Franchement, la photo de famille du président des États-Unis et du président du Royaume-Uni au niveau capillaire n'aura jamais été aussi incongrue que dans ce moment de l'histoire.
Meilleur ami, ils vont être frères. Et du coup, je voulais savoir, Nathan, et je voulais réfléchir avec toi sur une question qui est intéressante. Quelque chose qui représente... qui est quelque chose d'intéressant et important au niveau national, mais aussi au niveau de la société et du business, mais aussi au niveau de l'Église. Et c'est ce qu'on appelle la transition de leadership, donc de passer d'un leader à un autre. Donc, dans ce cas-ci, en Angleterre, nous avons deux leaders qui viennent du même parti, mais ils ont quand même une... ils sont quand même différents, ils ont quand même une personnalité différente, des positions politiques différentes, même s'ils viennent du même parti. Mais il y a aussi des transitions politiques qui peuvent être beaucoup plus différentes. Si on réfléchit par exemple en 2016 de Obama à Trump, François Hollande à Emmanuel Macron, ou par exemple dans d'autres contextes de la société, par exemple comme nous avons vécu des transitions de leadership dans l'église, des transitions du business dans les entreprises, etc. etc. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qu'on a déjà parlé du leadership dans le sens général, mais particulièrement si on regarde aux transitions entre deux leaders dans une structure, comment le bien faire? Quelles sont les marques d'une bonne transition de leadership?
C'est une sacrée question, ça. Et ce qui est tellement difficile, c'est qu'on est en train de parler de transitions de leadership qui sont extrêmement différentes.
Ouais.
Dans le sens où dans une église, ça va être un processus, j'espère, très volontaire. Quelqu'un qui est responsable dans une église devrait être dans la démarche de vouloir que des gens prennent la responsabilité plus que la personne qui est en leadership actuel. Ça doit être l'objectif de tout leader d'église. Ça doit être de vouloir lever des gens qui vont les dépasser en termes de dons, en termes d'autorité, en termes de ownership, du fait de porter sur les épaules la vision de l'église, la volonté de conduire cette église de l'avant. Dans le business, c'est pas forcément autant le cas, mais un leader doit savoir bien préparer sa propre succession, même si la démarche n'est pas autant vraie de dire je dois vouloir qu'un maximum de personnes deviennent aussi vite que possible plus aptes que moi à porter ce truc et à l'emmener plus loin que moi je pourrais l'emmener. C'est pas la même démarche. Et puis au niveau politique, c'est pas entre les mains du président ou de la présidente de décider qui c'est qui va recevoir la main derrière. Donc c'est quand même des questions très différentes sur les différents sujets. Je pense qu'il y a des points de convergence sur tous. Le premier doit être de vouloir le bien-être de la société plus que son bien-être personnel. Mmh. Donc tu parles de Obama et de Trump. Obama devait avoir la mort dans l'âme à l'idée de passer le leadership à Trump. Et pourtant, il savait que pour le bien de la société américaine, il devait faire tout ce qu'il pouvait pour mettre Donald Trump dans les meilleures dispositions possibles pour réussir. Pas pour le bien de Trump, mais pour le bien du pays. Mmh. Ça devait être la disposition d'Obama. J'ai aucune idée si ça l'était ou si ça l'était pas. C'est pas à moi d'en juger. Il a quand même pris les bonnes poses au niveau des photos au moment de cette saison presque surréaliste de 2 semaines où Trump et Obama se réunissaient tous les jours dans le bureau ovale, etc.
Déjà, ça, c'est un bon signe. Moi, je trouve qu'il a pris le temps de se rencontrer. C'est, il me semble, il y a des... Ça, c'est pas toujours le cas.
C'est vrai. Hein, en tout cas, voilà. En tout cas, ça montre cette volonté de dire je vois plus que juste moi. La dernière personne avec qui Obama voulait être dans une même pièce, c'était Trump. Et pourtant, il a dit je vais le faire parce que c'est meilleur pour mon pays que je mette Donald Trump dans les bonnes conditions pour réussir son taf aussi bien que possible plutôt que de juste bouder dans mon coin et dire j'exècre cet homme et tout ce qu'il représente.
Et d'ailleurs, juste un petit truc, il me semble aussi que Bush a fait un très très bon travail à préparer Obama derrière lui aussi. Oui. Hein, donc c'est pas politique ce que je dis. Hein.
C'est juste que le contraste était tellement grand qu'il est intéressant à faire ressortir. Donc ça va quand même être un premier truc. Et je pense qu'on dit souvent la différence entre un politicien, c'est qu'il cherche la croissance de son pays dans sa génération. Et la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est qu'un homme d'État va chercher le bien-être de sa nation sur les générations, sur toutes les générations à venir. Et je pense que n'importe quel leader doit avoir cette disposition de l'homme d'État plus que du politicien, qui ne cherche pas d'abord son bien-être à lui, mais qui cherche le bien-être de quelque chose de plus grand que lui, de sa société, de sa boîte, de sa famille, de toutes sortes de choses, de son église. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose qui a peut-être quand même moins de rapport pour le pays, même si ça pourrait avoir un rapport quand même, surtout dans le contexte anglais où ce serait possible parce que c'est au sein du même parti que le successeur est choisi quand c'est au cours du mandat, c'est que la tâche première d'un leader doit être de générer d'autres leaders. Ça doit être son travail numéro un. Donc, je suis en train d'écouter un podcast de Craig Groeschel sur le leadership que je vous recommande à fond si vous comprenez l'anglais. Le leadership podcast de Craig Groeschel est un bijou, c'est brillant. Et il parle à un moment donné de la différence entre un mauvais leader, un leader médiocre, un bon leader et un grand leader. Il dit un mauvais leader, les gens ne vont pas vouloir le suivre. Un leader médiocre, les gens vont accepter de le suivre. Et un bon leader, les gens vont être heureux de le suivre. Et il dit, est-ce que vous remarquez quelque chose de similaire entre ces trois personnes-là ? Le mot « suivre ». Un grand leader va vouloir générer d'autres leaders. Et ça doit être ça, la tâche première d'un leader. C'est de dire, je vais focaliser la plupart de mon énergie à faire en sorte que d'autres personnes puissent grandir et puissent faire des choses que moi je fais aujourd'hui, les faire au bout d'un moment aussi bien que moi, au bout d'un moment mieux que moi, quitte à ce que je me retrouve à être remplacé par ces personnes. Donc je dis que le leader d'une boîte n'est pas forcément dans cette démarche-là, mais c'est toujours parce que le leader d'une boîte va se dire « mais j'ai pas envie de me retrouver au chômage ». Mais je pense que les sociétés, les organisations iraient mieux si leur patron cherchaient à faire tout ce qu'ils pouvaient pour que les gens juniors en dessous d'eux deviennent aussi bons qu'eux et ils se déversent au maximum dans ces personnes-là. Ce serait meilleur pour la boîte en général parce que tout le monde monterait en niveau et donc le leader serait entouré de plein d'autres super suiveurs, mais entouré de plein d'autres super leaders. Tu ne peux jamais avoir trop de bons leaders et de grands leaders dans ton entreprise, dans ton pays, dans ton parti politique, dans ton église. Il faut que tu veuilles conduire les autres à être meilleurs que toi. Et je pense même que si la peur que tu as, c'est de te faire remplacer ou je sais pas quoi, quand tu te retrouves dans une situation où tu as levé autour de toi et tu as donné beaucoup, beaucoup de place et beaucoup d'autorité et de pouvoir au sein de ton organisation à un grand nombre d'autres personnes, ces personnes-là vont vouloir que tu restes, en fait, vont vouloir que tu restes dans le leadership parce qu'ils vont se dire, mais je sais que moi, je fleuris et que j'ai de la liberté pour entrer dans la plénitude de tout ce que moi, je suis capable de faire. Mais quelqu'un qui a vraiment la vraie pensée de la transition va chercher à transitionner, va être intentionnel dans le fait de transitionner. Il va vouloir aller vers ça. Donc, ça veut dire de demander à des gens de faire des choses qu'ils ne sont pas encore capables de faire aujourd'hui et de croire plus pour eux qu'ils ne croient pour eux-mêmes. Donc tout récemment, là, à l'église, on a demandé à deux jeunes femmes si elles voulaient prêcher. Elles n'avaient jamais prêché à l'église. Aucune d'entre elles n'avait beaucoup d'expérience dans la prédication. Et j'ai demandé à deux d'entre elles. Il y en avait une qui m'avait déjà dit « J'ai à cœur l'enseignement » et quand je lui ai demandé, elle m'a tout de suite dit oui. L'autre m'a dit « Il faut que je prenne le temps d'y réfléchir. » Elle a fini par me dire oui. Mais les deux m'ont dit après « J'étais très reconnaissante que tu me demandes. J'avoue que je ne me sentais pas prête. » Et là, je me suis dit « Génial !» Tu vois, trop bien. Et plusieurs fois dans l'église, on a demandé à des gens de faire des choses qu'ils ne se sentent pas encore prêts à faire. Et parfois, les gens vont dire oui, et super. Et parfois, les gens vont dire non. Et là aussi, il faut être prêt à dire super. Quand on pose une question à quelqu'un, est-ce que tu veux bien faire ça? Il y a deux bonnes réponses, oui ou non. Donc, j'ai aussi une conversation avec quelqu'un qui m'a dit non, je ne me sens pas encore prêt. Et donc, je lui ai dit ok, bah merci, c'est une bonne réponse. Tu n'as pas à t'excuser de me dire non. Parce que parfois les gens ne disent pas non parce qu'on n'a pas donné la liberté aux gens de dire non aussi. Ça fait partie de créer une culture où on transitionne le leadership, c'est qu'on donne le pouvoir aux gens de dire oui, le pouvoir aux gens de dire non quand on leur demande quelque chose. Donc on ne met pas de pression sur les gens, mais on leur donne la liberté. Mais donc j'ai dit à ce gars qui m'avait dit non, tu ne te sens pas prêt, tu me dis non, ce n'est pas une mauvaise réponse, c'est une bonne réponse. Sache par contre que mon opinion, si je t'ai demandé, c'est que moi, je pense que tu es prêt. Donc, s'il te plaît, ne sois pas offusqué que dans 6 mois, je te repose la même question. Parce que je ne sais pas si d'ici là, tu te sentiras prêt ou pas. J'ai pas envie de projeter sur toi le fait que tu ne seras pas prêt dans 6 mois parce que tu penses ne pas être prêt aujourd'hui. Et moi, je veux croire pour toi plus que tu ne crois pour toi-même. Ouais. En fait. Et je veux voir en toi plus que ce que tu vois que tu es capable de faire aujourd'hui. Donc, ouais. C'est ça qui me fait kiffer, en fait. J'aime trop être dans une culture d'église où on est comme ça.
D'ailleurs, si vous voulez écouter les prédications de Fanny et d'Angélique qui sont disponibles sous forme de podcast sur le podcast Église Fireplace, allez le découvrir là où vous avez trouvé ce podcast. Ça me rappelle deux histoires politiques, Nathan, ce concept de transition. La première, c'est quelqu'un que je pense de loin a fait un bon travail de transition, c'est Angela Merkel, qui semble avoir s'entouré de gens, lever des gens autour d'elle qui peut ensuite reprendre son rôle. Donc là aujourd'hui, c'est. Attends, son nom, Annegret Kramp-Karrenbauer,
okay.
Qui semble être la personne qui va reprendre le leadership du parti après Angela Merkel. C'est quelqu'un qu'elle a travaillé avec elle pendant des années et des années, elle a levé et l'a fait sortir. Mais ce concept de transition pose aussi un risque, Nathan. Et je pense notamment à, par exemple, François Hollande, qui a pris Emmanuel Macron sous son aile pour le faire grandir, ouais. Et puis pour ensuite que Macron parte fonder son propre parti et détruire le Parti Socialiste. C'est pas un risque aussi de faire en sorte que les gens te surpasse?
C'est toujours un risque. Mais si tu existes pour quelque chose de plus grand que toi, alors c'est pas grave. Et à nouveau, comprenez que je parle vraiment, moi, depuis une posture, je suis un homme de foi. Et donc pour moi, je sais que j'aurai toujours quelque chose à faire. Je sais que la mission que Jésus nous a confiée est tellement grande que j'aurai toujours quelque chose à faire. Et donc oui, c'est sûr que c'est un risque. C'est sûr que c'est un risque, mais c'est un risque pour toi. Et donc tout dépend de ta perspective. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir? Est-ce que tu cherches à toi te positionner pour avoir un ministère, pour avoir un rôle? Et finalement, est-ce que tu trouves ta valeur dans ce rôle? Ou bien est-ce que tu cherches avant tout à glorifier Dieu, ou est-ce que tu cherches avant tout à faire en sorte que ta société aille bien et que tous les gens qui sont employés dans ta société soient dans les meilleures conditions possibles pour être épanouis bien, que leur famille soit en bonne santé, que au niveau financier, tout le monde y trouve sa part dans la boîte que tu es en train de diriger. Et si une personne le fera mieux que toi, pourquoi ne pas lui passer la main? Bien sûr, ça voudrait dire qu'il faudrait que toi, tu trouves autre chose à faire. Que toi, tu sois moins bien salarié si tu te retrouves à demander à quelqu'un d'autre d'être PDG, admettons, à ta place, et que toi tu te retrouves à être un assistant ou un conseiller ou un consultant d'une façon ou d'une autre, ou un membre émérite du conseil d'administration, j'en sais rien. C'est toujours un risque. Et une chose d'ailleurs dans la transition, c'est que si tu transitionnes vraiment, alors tu ne peux pas dire à la personne à qui tu transitionnes, je te passe la main, mais il faut que tu me donnes ce rôle-là après la transition. Si tu passes la main, tu passes vraiment la main. Tu dis à la personne, à partir de maintenant, c'est toi qui prends la responsabilité et je te donne à toi la liberté et le pouvoir de dire quel rôle est-ce que tu veux que moi j'aie. Ça peut être de zéro à, ça peut être, je suis ton bras droit avec un salaire équivalent. J'en sais rien, tu vois, mais je te passe vraiment les rênes à toi, tu vois. Mais oui, c'est un risque énorme. Mais dans un sens, si François Hollande a cru en Macron, ça ne devrait pas le gêner que Macron ait conduit les choses comme lui pensait qu'il devrait les conduire. Et est-ce qu'il s'est trompé en croyant Macron comme ça? Aujourd'hui, il semble revenir et dire, ouais, je pense pas du tout que il fasse les choses comme il les devrait. Et ça, je pense que ça demande aussi quand on forme des leaders, on ne se focalise pas avant tout sur la personnalité, on ne se focalise pas avant tout sur les opinions, on ne se focalise pas avant tout sur les compétences ou sur les dons spirituels, pour parler en termes chrétiens, on se focalise avant tout sur les valeurs. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs de fond? Et il aurait déjà pu voir que son ministre de l'économie ne partageait pas les mêmes valeurs que lui. Il a vu quelqu'un qui serait une sorte de lumière brillante, qui pourrait prendre sa suite et dire waouh, quel bon successeur pour prendre la suite de François Hollande et pour s'assurer que ce soit toujours le Parti socialiste qui soit aux manettes du pays. Il s'avère qu'il n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Donc quand on forme des leaders et quand on donne de la responsabilité à des gens, on ne regarde pas avant tout leur don, on ne regarde pas avant tout leur personnalité, on regarde avant tout leur valeur. Est-ce qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi? Est-ce que c'est des gens qui vont me permettre à ce que la continuité puisse être là? Et puis si oui, alors il faut être d'accord que la personne ensuite porte ses valeurs, mais les porte d'une façon différente, en conduisant l'organisation dans un chemin qui est différent, mais on reste fidèle aux valeurs qui sont là. Parce que ce qui se passe, c'est que la personne qui prend ta relève ne voit pas les choses comme toi tu les vois. Il y a un dicton qui est très classique dans le monde du leadership, c'est ce qui t'a conduit là où tu es aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va te conduire là où tu dois aller à l'avenir. Et ça, je pense que c'est un principe qui est extrêmement important à savoir. Quand on passe la main à quelqu'un, il va faire les choses différemment parce qu'il voit sans doute l'avenir de là où on doit aller qui est différent de là où toi tu penses que l'avenir devrait être, parce que sans doute tu as quelques années de plus, parce que sans doute tu as une sorte d'inertie organisationnelle qui est là, dans le sens où tu es dans l'organisation depuis plus longtemps que la personne, probablement, et donc que tu as un petit peu plus le côté, ben, on a toujours fait les choses comme ça. Et donc il faut toujours qu'on perpétue les choses comme on les a toujours fait. Le nouveau leader va venir et va dire ce qui nous a conduit là où on est aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va nous conduire là où on va demain. Oui, on ne touche pas aux valeurs, mais dans ce qu'on fait, comment on conduit les choses, ça va être différent. Et pareil, il y a un dicton qu'on devrait vraiment retenir, je pense, en tant que leader, si vous avez des responsabilités. Ce que tu as toujours fait produira les résultats que tu as toujours eus. Pour avoir des résultats que tu n'as pas eus jusqu'ici, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas faites jusqu'ici. C'est de la folie de te dire qu'en continuant à faire les choses que tu as toujours fait, tu vas avoir un résultat différent que le résultat que tu as toujours eu. Et je crois que c'est Henry Ford qui a dit un truc comme ça. Et c'est un principe qui est ultra important. Et donc, forcément, la personne qui prend la relève va vouloir faire les choses différemment. Parce que c'est de la folie de se dire que ce qu'on a toujours fait va obtenir des résultats différents que les résultats qu'on a toujours obtenus. Donc, il faut être prêt en passant la relève à ce que les gens fassent les choses différemment. Pour moi, une transition de leadership vachement bien opérée, c'est dans une église, l'église où j'ai fait un stage en Angleterre, New Community Church. Et franchement, donc le responsable de l'équipe d'anciens, l'équipe de pasteurs à l'époque, qui s'appelait David Holden, quand il a passé la main à un gars qui a 35 ans de moins que lui, James Seeley, James est très 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 différent de Dave. Mais ce que Dave a toujours cherché à faire, c'était pas de faire que James soit comme lui, c'était de toujours encourager James à être plus lui-même. Donc par exemple, il avait remarqué que James a un super sens de l'humour, mais son sens de l'humour ne ressortait pas souvent dans ses prédications. Et je l'ai entendu dire à James, James, t'es un mec qui est super drôle, pourquoi ça ressort pas quand tu prêches? Sois plus toi-même. Alors que Dave, quand il prêche, c'est pas un grand blagueur. Donc il n'était pas en train de dire à James, deviens comme moi, il était en train de dire, deviens comme toi. Et James a un style de leadership très 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 différent. Et il a dit en gros à James, moi, mon rôle dans l'équipe et dans l'église, c'est toi qui décides ce que ça va être quand je t'ai passé la main. Et James, je pense, en sentant la liberté que Dave lui laissait, lui a dit, mais je veux que tu restes ancien à mes côtés. Et donc ça, c'est cool. Mais un autre truc, c'est que James a conduit l'église dans une direction très, très, très différente. Au niveau du style de ce que l'église cherchait à faire, des objectifs principaux, les valeurs restaient les mêmes, mais les objectifs et la façon d'y aller étaient très différentes. Donc moi, j'étais là au moment où il prenait la relève et Dave, peut-être que Dave se rendait compte que les choses que James cherchait à faire allaient se planter. Parce que ça s'est planté. Pendant la première année ou 2 années, les choses que James a essayé de mettre en place n'étaient pas du tout les bonnes choses. Et l'église a stagné un petit peu pendant un temps. Il a eu du mal à prendre ses repères pour vraiment être le responsable de l'équipe d'anciens, le leader visionnaire principal. Mais Dave l'a laissé faire. Il était là quand James voulait venir lui poser des questions. Mais il n'est pas venu en disant ah, il faut juste quand même que je reprenne un petit peu les manettes parce que là, tu es quand même en train d'emmener le navire dans un sens où clairement, clairement, l'eau n'est pas assez profonde, où clairement, clairement, il y a trop de vagues. Non, je vais le laisser faire. Il va s'en sortir. Il va trouver le moyen. Et finalement, ce qui se passe, c'est que James avait un inkling. Comment tu dirais ça?
Un peu un sens du
Ouais, il avait un sens de là où l'église devait aller pour aller à la prochaine étape, mais ce n'était pas un sens qui était assez bien affiné pour que l'église puisse le suivre dedans. Et donc il a cherché une première fois et il a mal articulé ou mal packagé le changement dans lequel il voulait emmener l'église et ça s'est planté. Et donc il a réarticulé le truc, réaffiné le truc et il a donné une vision plus claire et plus nette du sens profond qu'il avait. Il a réussi à communiquer à l'église ce qu'il avait dans ses tripes qu'il n'avait pas encore réussi à pleinement articuler. Et la deuxième fois, c'est extraordinaire et l'église est passée à un palier supérieur. Et l'église est là où elle est aujourd'hui. Quand je vais rendre visite à l'église, t'es là, mais oh, ils ont vraiment passé un palier, ils ont passé un niveau, quoi. Et ce serait impossible si Dave n'avait pas transitionné à James, parce que James a conduit l'église quelque part où Dave n'aurait jamais pu le conduire, parce qu'il avait une perspective que Dave n'aurait pas pu avoir. Mais en même temps, James n'aurait jamais pu conduire l'église là où elle est si Dave n'avait pas eu la grâce de laisser autant de liberté à James dans la transition, en mettant l'accent toujours, les valeurs restent les mêmes, les valeurs restent les mêmes, les valeurs restent les mêmes. Par contre, tu as un style qui est différent, je veux que tu sois toi plutôt que tu sois moi. Et je te laisse faire des erreurs, je te laisse emmener l'église dans un sens où peut-être l'église va stagner, peut-être même qu'il y aura moins de monde qui vont... Il y a des gens qui vont quitter l'église à cause de là où tu essayes de les emmener, parce que j'ai confiance que ce que je vois en toi, ça va porter du fruit à long terme.
Merci d'avoir écouté la première partie de cette discussion sur la transition de leadership. La deuxième partie sera disponible dès la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Donc abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur Spotify ou sur Pocket Casts ou sur Google Podcasts pour avoir tous les épisodes dès leur sortie. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!